Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Aurélie Labbé. Bonjour.
Bonjour.
Aurélie Labbé, vous êtes passionnée des métiers à tissier et vous en avez fait votre activité professionnelle, je dirais. Et vous êtes aussi quelque part historienne.
Disons que j'ai commencé par travailler sur des métiers à tisser historiques dans le cadre de parcs archéologiques. Donc c'était vraiment... j'ai pas une formation d'historienne. Par contre, j'ai vraiment commencé par tisser sur des métiers du néolithique, d'époque médiévale, etc. Donc je viens de là, mais aujourd'hui ça s'est vraiment étendu aux métiers à tisser du monde entier. Je m'intéresse aux techniques qui viennent du monde entier.
Vous êtes ici principalement pour nous parler de la fête de la laine qui va se dérouler à Crest les 8 et 9 février. Donc ça sera un espace où des artisans créateurs pourront exposer et vendre leur production. Également, il y aura des conférences et des animations. Et ça se déroulera sur l'espace Soubéran entre 10 et 19 heures. L'entrée est libre. Hein. Pour ça, vous avez prévu 52 artisans créateurs. Ce sont des personnes qui sont de la région ?
Non, ce qu'il faut dire, c'est que donc déjà, cette fête de la laine, cette année, est particulière. C'est la 30e, donc on fête quand même 30 ans. C'est un des plus gros événements autour de la laine en France. Donc, on a des artisans, des éleveurs. C'est pas seulement des produits finis, en fait. On peut aussi trouver de la laine brute. Il y a toute la filière, en fait, qui est représentée. Mais c'est des artisans qui viennent de partout en France. D'ailleurs, les places sont très recherchées. C'est difficile d'accueillir tout le monde. Donc, 52 exposants, ça fait vraiment un sacré paquet d'exposants. Voilà, donc on trouve tout. De la laine brute vendue par les éleveurs, au fil, filée à la main, du feutre fait par des feutrières, du tissage, toute la filière est représentée.
Une manière de découvrir aussi l'évolution de cette activité depuis quelques années.
Oui, c'est-à-dire que depuis quelques années quand même, on voit... En France, vraiment, cette filière renaître avec plein de jeunes qui se lancent dans la réhabilitation de vieilles filatures. Il y a vraiment un renouveau de la laine ces dernières années qui est assez encourageant, en tout cas. Et puis, on voit aussi une évolution quand même, moi, je trouve, en tout cas, chez le public qui vient à cette fête de la laine, il y a aujourd'hui cette notion de rechercher des produits durables, en tout cas au niveau écologique, qui ont une empreinte plus faible que la mode industrielle. Et puis une vraie démarche d'aller à la rencontre aussi des producteurs, des éleveurs. Voilà.
D'ailleurs, il y a une évolution aussi avec la laine, des innovations. J'ai vu récemment une entreprise qui propose des baskets en laine maintenant aussi. Donc, il y a des filières qui se développent à votre connaissance et qui permettent des innovations ou des créations nouvelles.
C'est sûr que c'est un produit hyper intéressant, déjà pour les raisons que j'ai dit avant, c'est-à-dire vraiment ce côté, écologiquement, c'est très intéressant. Et puis, à savoir que la laine a vraiment des particularités techniques qui sont très intéressantes. Aujourd'hui, par exemple, on trouve dans le milieu du sport de plus en plus de sweats et de t-shirts à mettre à même la peau, notamment pour faire de la randonnée en haute montagne, à la fois parce qu'elle a des propriétés chaudes, mais aussi elle va évacuer les odeurs rapidement, ça sèche vite, la laine aussi. Et aussi, Il faut le dire, elle n'est pas que, c'est pas que un produit qui gratte. Souvent, les gens ont cette idée que c'est une matière qui gratte. Mais aujourd'hui, quand même, on a des laines qu'on travaille d'une certaine manière et on arrive à obtenir des produits quand même très doux. Donc voilà, il y a toutes ces propriétés qui sont hyper intéressantes de la laine. Je ne connaissais pas cette histoire des baskets, mais pourquoi pas ? C'est hyper intéressant, notamment parce que la laine, elle est auto-nettoyante. Elle ne garde pas les odeurs. Si vous avez un t-shirt en laine que vous laissez dehors une nuit, le lendemain, il n'y a plus aucune odeur dessus. Si vous l'avez porté la veille, vous pouvez le remettre.
Voilà. C'est à ça qu'on le reconnaît, le synthétique de la laine, hein ?
Oui, c'est bon. Après, il y a des produits synthétiques, il faut pas le nier, qui ont des propriétés très intéressantes aujourd'hui. Mais après, il y a une question de durabilité quand même. Et puis, moi personnellement, j'arrive jamais à trouver le même confort, mais parce que j'ai peut-être une déformation professionnelle, mais je trouve quand même que la laine est un produit assez extraordinaire quand même. Ça vient d'un animal, c'est proche de nous, quoi. Plus proche que du synthétique.
Et puis, il permet aussi une régulation de température également. Hein.
Oui, c'est isolant.
Il peut être soit rafraîchissant avec la chaleur et inversement réchauffant avec le froid.
Oui, c'est pour ça aussi qu'on l'utilise en isolant dans les maisons. Aujourd'hui, en éco-construction, on utilise souvent la laine. Bon, le problème, c'est les mythes hein, dans l'éco-construction. Mais...
On va aborder un petit peu la programmation de cette fête de la laine. On va commencer par les conférences, donc avec l'archéologie du textile. Ça sera proposé par Michel Bois, qui est archéologue. Et donc, ça abordera quel sujet en gros ?
Alors là, il faudrait demander à Michel, parce que moi, j'ai fait une conférence avec elle il y a quelques temps, et puis on avait travaillé sur l'époque médiévale principalement. Et je ne sais pas du tout quel sera le contenu de sa conférence cette année. Mais en tout cas, c'est une archéologue qui s'est spécialisée aussi dans l'archéologie textile, et ce sera passionnant, j'en doute pas.
Il y a énormément de professionnels scientifiques qui travaillent avec ces nouvelles ou ces retours de matière.
Scientifique, par rapport à ce que je connais, donc il y a Marie-Thérèse Chopin qui va faire une conférence cette année et qui a été, pour une grande part en tout cas, à l'initiative d'un groupe de recherche sur la laine en Europe qui s'appelle l'Atelier. Les habitués de la fête de la laine connaissent très bien l'exposition qu'on voit chaque année sur la laine et toutes les laines. En fait, il y a eu un travail de recensement des laines d'Europe, de leurs particularités. Ça a abouti à un livre aussi. Mais l'atelier, bien plus que ça, c'est aussi un outil de mise en relation de tous les acteurs de la filière laine. Donc, voilà, c'est un recensement ou en tout cas un lieu de mise en relation de tous ces acteurs. Et pour terminer, Marie-Thérèse Chopin a fait vraiment un travail très, très approfondi sur les caractéristiques de chaque laine et sur qu'est-ce qu'on peut faire avec chacune, parce qu'une laine, elle n'est pas bonne à tout faire. On va l'utiliser plus pour faire du fil ou du feutre ou du matelas ou de la couette, et c'est pas du tout les mêmes laines qu'on va utiliser pour ça. Voilà.
Atelier Laine d'Europe est basé à quelle ville ?
Alors Marie-Thérèse Chopin, elle travaille à la filature de Chantemerle, donc c'est dans les Alpes. Voilà, et je sais plus, je l'ai eu su, mais alors le mot me revient pas. C'est en France, et voilà, vous pouvez aller sur le site internet de l'Atelier Laine d'Europe et vous allez tomber, en tout cas sur toute la base de données avec tous les acteurs de la filière laine qui se sont inscrits sur l'atelier. Et il y a leurs contacts, il y a aussi les stages qu'ils donnent. Donc l'atelier a aussi pour vocation une redynamisation de cette filière laine. C'est aussi la promotion de ces produits et une animation comme par exemple cette exposition. Voilà, on peut s'informer sur ce que c'est, la faire connaître la laine et la revaloriser.
En parallèle de ces conférences, il y a également des expositions et une qui sera un hommage à Christina Zoffal, feutrière d'exception, c'est intitulé ainsi. Le revers de mon look,
Alors ça justement, je n'ai pas vu cette exposition encore, mais elle est sur un thème qui m'est cher, puisque c'est une comparaison. Donc c'est des grands panneaux et puis sur chacun, il y a une comparaison de l'impact écologique d'un vêtement fabriqué de manière industrielle chimique et de l'autre côté, un vêtement en laine ou en produit naturel. Et donc comme ça, c'est vraiment pour prendre la mesure de cet impact qui est quand même assez énorme. Il faut dire que la filière textile, mondialement, c'est vraiment une des plus polluantes au monde. C'est pas du tout anodin d'acheter un vêtement qu'on va jeter au bout de 6 mois parce que déjà il est de mauvaise qualité et ensuite parce que la mode change. Ou d'aller acheter un pull qui est en laine et qui est fabriqué à partir d'un animal, donc un produit peu transformé en fait, très peu transformé par rapport à un produit chimique. Et puis surtout qui va être biodégradable et qui va durer des dizaines d'années.
Justement, limiter les impacts de la mode sur la planète, ça s'intitule ainsi, agir pour limiter donc. C'est présenté par Isabelle Kay, c'est une exposition en partenariat avec l'ADEME.
Oh, oui, voilà. C'est un partenariat avec l'ADEME.
À votre connaissance, hein, Aurélie, oui, je vous parle par rapport à ce que vous savez. Il y a le recyclage aujourd'hui qui se fait de plus en plus. Est-ce qu'il y en a un aussi concernant la laine? Est-ce qu'une laine qui a été tricotée pourrait être détricotée et retransformée?
Moi, souvent, la laine, je ne la réutilise pas. Par contre, on peut l'utiliser comme isolant, ça c'est sûr. On peut la broyer. Je ne sais pas quel pourcentage il y a de laine dans la métisse, qui est un isolant pour les maisons, qui est fait en vêtements broyés. Donc ça se fait encore assez peu, malheureusement. Mais la majorité, c'est quand même du coton. Il y a un peu de synthétique dedans. Je ne sais pas s'il y a de la laine. Après, souvent, un vêtement en laine, on le garde jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il soit vraiment troué. Du coup, les fils, on ne peut pas vraiment les réutiliser. Moi, je vais plutôt l'utiliser pour bourrer des coussins ou des choses comme ça. Mais...
J'imaginais plus même de retraiter cette laine tricotée de manière à la rendre de nouveau d'un aspect brut.
Ça, je ne pense pas que ce soit très, très facile. Par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on peut la jeter au compost et que ça n'aura pas un impact fort sur l'environnement. Ça va complètement repartir dans la nature. Les petites bêtes vont venir chercher des petits bouts de laine pour faire leur nid, les oiseaux, les écureuils. Et puis, ça va retourner dans le cycle naturel, sans impact fort.
Alors, on revient un peu sur la filière laine. Vous citiez tout à l'heure un travail sur les laines en Europe.
Oui.
Et là, on parle des races de moutons, de la filière laine. Ça, c'est toujours autour de l'atelier Laine d'Europe.
Toujours, voilà. C'est cette exposition qui est là tous les ans à la fête de la laine. Donc, on peut voir... une exposition de plein de laines différentes. Ils n'ont pas tout mis, évidemment, hein, parce que ce serait énorme. Il y a beaucoup de races de moutons. Et puis aussi quelques outils de filage, de tissage, etc. Enfin, on voit quelques produits transformés, en tout cas. Après, ce qui est intéressant de voir, c'est que... sur cette fête de la laine, vous pouvez aussi aller voir les exposants. C'est-à-dire que les exposants, c'est aussi... on peut suivre toute la filière comme ça. Vous allez avoir des éleveurs qui transforment une laine brute. Donc déjà, il y a cet échange qui peut se faire en direct sur les processus d'élevage, comment ils font la sélection, etc. C'est vraiment un lieu d'échange. Et puis, il y a des fileuses professionnelles et puis il y a aussi les fileuses de Pédaler pour la paix qui sont là tous les ans, donc un projet de solidarité autour du textile. Donc elles sont là tous les ans, elles filent bénévolement, donc vous pouvez voir ça. Et puis acheter, même pour participer au projet de solidarité, vous pouvez acheter quelques écheveaux de laine faits à la main. Ensuite, il y a des tricoteuses, il y a des tisserandes, il y a des feutrières. Il y a même une matelassière qui va faire une démonstration sur tout le week-end de la fabrication d'un matelas de A à Z. Donc vraiment, on peut suivre toute la filière. Et puis évidemment, acheter des produits pour la maison ou pour s'habiller avec.
Comme tu disais, que le public pouvait aller au-devant des artisans, des fabricants. Et donc, pour ça, il y a la Minute de l'Artisan, l'Artisane, qui sont des mini-conférences qui auront lieu pendant toute la durée du week-end. Oui. Et justement, c'est un moment d'échange à ce moment-là.
C'est ça, c'est des petits rendez-vous très courts. Ça peut être 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Et donc, il y aura un programme à l'entrée avec ces rendez-vous, les horaires pendant lesquels vous pouvez aller voir un artisan. Il propose d'aborder un sujet précis, mais rapidement. Ça peut être une teinturière qui va parler d'une couleur, d'une plante. Ça peut être aussi, par exemple, moi, sur ce projet sur l'ICAT, le tissage d'un ICAT. Ou sur le week-end, je voudrais proposer de suivre tout le processus. Donc, il y aura des petits rendez-vous comme ça où les gens pourront venir s'informer. Voilà, une mini-conférence.
Nous allons passer donc à la tenture collective en laine feutrée. Ça, c'est réalisé par un groupe d'enfants et adultes de la Fondation Robert Ardouvin.
Ouais.
Alors,
je sais pas ce qu'ils vont faire, mais... voilà, c'est un chibori, en tout cas tous les ans ils font des ateliers chibori. Alors le chibori, c'est des bouts de tissu qu'on va nouer pour qu'il y ait des zones où la teinture ne va pas pénétrer. Donc il y a tout un savoir-faire comme ça pour faire des motifs et donc cette année apparemment ils vont faire ça sur du feutre. Donc du feutre de laine. Après, voilà, j'en en sais pas plus. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sera de la teinture et puis qu'il y aura cette technique du chibori. Peut-être c'est juste le support cette année qui sera différent, j'imagine. Voilà.
Je me souviens de ces présentations de métiers ou d'activités autour de la laine qui étaient proposées lors des transhumances à Die. C'est une chose qui vous manque, vous les professionnels, pour pouvoir vous faire connaître ou exposer un peu vos activités sur la région notamment.
La fête de la laine, en tout cas, c'est un moment très très important. À la fois sur la région, mais j'ai envie de dire aussi ça rayonne un peu plus quand même. Il y a des gens qui viennent de très loin parce qu'ils savent qu'ils vont trouver des produits qu'ils cherchent. Ils viennent vraiment chercher du matériel, de la laine, des belles matières. Souvent aussi, il peut y avoir aussi des artisans qui viennent rencontrer les éleveurs, chercher des produits. Donc oui, c'est important. Après, il y a le marché laine et soie à Die en août. Tous les ans, qui fait un espace aussi d'échange. Mais c'est vraiment cette fête de la laine qui est un gros événement central quand même dans l'année. Je ne sais pas si ça manque. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est une chance déjà qu'on ait un événement aussi important ici pour pouvoir parler de la laine.
Ces deux journées organisées sont du fait de l'association La Toison d'Art, qui est basée à Cray. La Toison d'Art, ça représente qui ?
Eh bien, La Toison d'Art, c'est un ensemble d'artisans qui travaillent la laine. Et c'est eux aussi qui organisent le marché laine et soie. Ils font toute une tournée pendant l'été. Ils sont un groupe comme ça. Et ils passent de ville en ville et ils font des marchés laine et soie dans plusieurs villes pendant l'été. C'est une association d'animation et de dynamisation, en tout cas, de la filière laine.
pour ça, vous opérez avec certains partenariats pour l'organisation. Là, on peut notamment dire la ville de Créteil, le département de la Drôme et les ateliers d'art de France. On revient un petit peu sur le marché de la laine et de la soie de Die, hein, qui aura lieu en août probablement. Oui. Qu'en est-il du marché de la soie en France ? À ta connaissance.
J'ai rien à dire. À la soie en France, c'est pas un produit français. Donc, en tout cas, ça ne l'est plus, puisque nous, on était une région, la Drôme en tout cas, qui était grosse productrice de soie, jusqu'à l'arrivée de la viscose au début du XXe. Hein, donc, Saillant, qui tissait la soie. Tout le long de la Drôme, il y avait des usines qui travaillaient la soie. Il y a des magnaneries dans toutes les vieilles maisons. Donc évidemment, c'était un produit local, on va dire. Et puis il y avait Lyon, évidemment, où il y avait une énorme production de soie. Mais tout ça s'est effondré à l'arrivée de la rayonne, à la viscose. Aujourd'hui, il n'y a plus de fabrication de soie en France, ou alors c'est vraiment des toutes petites quantités, vraiment à titre, c'est anecdotique, quoi. Donc voilà. En tout cas, pas que je sache. Donc la soie vient principalement d'Asie, d'Inde, de Chine.
Vous citiez tout à l'heure une petite structure en Ardèche hein, qui œuvrait pour ces activités de la soie. Il n'y a pas encore, c'est du fait du coût probable excessivement cher de la production de soie qui fait que ça ne se reproduira plus en France.
Bah, y a plusieurs choses, j'imagine. Après, je suis loin d'être une spécialiste. Donc après, c'est beaucoup des suppositions. Déjà, le fait qu'élever des vers à soie, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Et sous nos latitudes, quand même, c'est pas... Il faut chauffer, hein. Il faut beaucoup chauffer les bâtiments. À l'époque, si vous regardez les vieilles magnaneries, y a deux cheminées. Il y en a une de chaque côté de la pièce. C'est des animaux qui sont extrêmement sensibles. Il faut leur donner des grosses quantités de feuilles. Ça fonctionnait à l'époque parce qu'il y avait des paysans qui faisaient tous des petites quantités, mais ils étaient nombreux. Aujourd'hui, il faudrait faire ça à une échelle industrielle. Et vraiment, je ne pense pas qu'on soit dans des régions où c'est très, très judicieux de faire de la soie aujourd'hui. Et puis, j'imagine que le coût, évidemment, de la main-d'œuvre, c'est pas rien non plus. Voilà.
Ça resterait un textile de luxe, donc.
Bah, c'est sûr que la soie, c'est un textile de luxe. C'est un des plus beaux tissus qu'on puisse porter. Mais aussi, c'est énormément de travail. Donc c'est cher.
Vous parliez de viscose tout à l'heure. C'est une matière très ressemblante à la soie.
Alors la viscose, on appelle ça la soie végétale, parfois. C'est soie synthétique. En fait, la viscose, c'est de la cellulose. C'est du bois qui est dissous dans un mélange chimique très, très corrosif. Et on en fait donc une pâte visqueuse. Et cette pâte, est, donc on la passe dans une espèce de passoire et ça sort en fil. Voilà, pour faire vraiment simple. Et ça donne donc cette matière qui est très, très brillante, qui a des propriétés esthétiques, en tout cas très proches de la soie, mais qui n'a rien à voir au niveau des caractéristiques techniques. C'est-à-dire au niveau chaleur, parce que la soie, c'est très, très chaud, c'est très isolant, ça garde le frais, ça garde le chaud. Et puis, c'est d'une solidité pas comparable, en tout cas, avec la viscose. Donc, voilà, on n'arrivera quand même jamais à faire un produit aussi beau avec de la rayonne.
Tout au long de ces deux journées, il y aura des démonstrations de filage de main, filage à la main,
oui.
De tissage insolite I4, alors ça serait bien à expliquer.
Alors voilà, oui, donc ça je peux en parler puisque c'est moi qui le propose. Donc ça fait quelques années quand même que j'interviens sur cette fête de la laine. Chaque année, je propose quelque chose de différent. Et donc cette année, j'ai une exposition de métiers à tisser du monde entier, donc ma collection de métiers. Et il va y avoir une exposition sur le thème de l'ICAT au Centre d'art contemporain de Cré, place du Champ de Mars. Le vernissage, d'ailleurs, est le vendredi 7 à 18h30. Et ce sera présenté par Rémi Prin, qui est donc l'initiateur de cette exposition, un spécialiste de l'ICAT, qui est une technique de tissage très très complexe, un processus extrêmement élaboré. Donc on voulait faire un clin d'œil à cette exposition lors de la fête de la laine. Je me suis lancée dans l'aventure de l'ICAT, donc je montrerai les processus de fabrication d'un ICAT pendant ces 2 jours. Ce sera évidemment simplifié pour que le public puisse bien comprendre. Ensuite, bien sûr, ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'aller voir, si ça vous intéresse, d'aller voir l'exposition au Centre d'art. C'est quand même une exposition exceptionnelle, d'une grande qualité. C'est rare de voir de si belles pièces de tissu, surtout sur ce thème-là. Vraiment, je vous invite à y aller, quoi. Et Rémi Prin, qui est vraiment un spécialiste. Donc voilà, il y aura finalement ces 2 événements qui vont se faire écho. Et l'exposition sur l'ICAT sera visible jusqu'au 19 avril. Il y aura aussi des ateliers d'ailleurs, tissage, proposés par la ville de Cré pour animer cette exposition. Voilà, donc ça c'est une chose. Il va y avoir donc cette présentation de l'ICAT et aussi d'autres métiers à tisser du monde entier qui font avec d'autres techniques pour faire des motifs. Et également, il va y avoir un atelier tissage. Et cette année, tissage de tawashi. Donc les tawashi, c'est des petites éponges en tissu recyclé, en t-shirt recyclé. Donc vous pouvez venir fabriquer vos tawashi. Entre autres, il y aura d'autres activités textiles aussi.
Il y aura aussi une initiation au feutre.
Oui, tous les ans d'ailleurs, il y a une initiation au feutre, donc une technique assez abordable. Le feutre, c'est transformer la laine brute en une matière textile, simplement par friction. Donc on la frotte avec de l'eau et du savon, et puis on peut faire des petits objets assez rapidement.
Aurélie, vous êtes membre de cette association, de la Toison d'art, non ?
Non, j'en suis pas membre.
D'accord.
Tous les ans, on collabore de manière étroite quand même. On est, voilà, je suis en lien très très régulièrement avec eux, mais je ne suis pas membre officiel.
Et comment s'opère la sélection des artisans qui sont présents ? Il y a une collégiale qui décide après réflexion des invités ?
Oui, il faut dire que les places sont limitées, donc évidemment, alors je ne fais pas partie, je n'ai pas vu du tout comment ils choisissent, mais en tout cas ça tourne beaucoup parce que ils essayent de faire intervenir déjà une grande variété d'activités, et puis pour représenter toute la filière, et puis que tout le monde un jour, à un moment donné, ait une place, quoi.
Puis il y a en animation pour les enfants, je suppose, le manège à vélo de Babs Clown. Et ça, c'est sous réserve de beau temps.
Voilà, comme tous les ans. Ils sont là tous les ans. C'est très sympa. Il y aura évidemment à manger des crêpes et puis des plats chauds, des boissons. Voilà, donc les expositions, les ateliers. Aller visiter les stands des exposants éventuellement. Pour les rencontrer, mais aussi pour acheter, faire votre marché de la laine, et puis des conférences.
Il y aura aussi les sites internet hein, où l'on peut découvrir la programmation et puis certaines activités peut-être bien. Donc il y a la toison d'art tout attaché .weebly.com et puis les pages Facebook de la toison d'art et la page Facebook de la toison d'art. Proprement à vous Aurélie, votre activité, comment se passe-t-elle ?
Alors moi j'ai un atelier de tissage à Die où je propose principalement de la formation. Donc j'ai beaucoup d'éleveuses qui viennent me voir et de temps en temps des hommes qui viennent apprendre à travailler la laine depuis la matière brute, la laine sale, jusqu'au produit fini. J'ai même des éleveurs qui transforment leur laine à la main totalement, depuis leur matière brute jusqu'au tissu fini. Et puis, donc il y a des cours hebdomadaires. Et là, j'ai des fidèles qui viennent toutes les semaines depuis plusieurs années et qui approfondissent certaines techniques. À savoir que la particularité de mon atelier, c'est cette variété des techniques qu'on peut aborder, qu'on rencontre peut-être pas chez d'autres tisserands qui s'intéressent à une technique en particulier. Moi, je m'intéresse à des techniques plus rares, moins répandues. Donc,
Aurélie, il y a un moyen de voir votre activité sur le net, par exemple ?
Oui, sur mon blog fairfildetoutpoil.over-blog.com. Je suis aussi sur Facebook. Si vous tapez fairfildetoutpoil, vous pouvez aussi m'y retrouver. Voilà, et puis éventuellement me contacter pour aller venir visiter l'atelier. Il n'est pas ouvert au public parce que c'est un atelier privé, on va dire, un espace de coworking. Donc il faut me contacter en amont, mais il y a moyen de venir me rencontrer.
Aurélie Labbé, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps pour la fête de la laine, donc, qui se déroulera les 8 et 9 février 2020 à Cray. Ça sera à l'espace Soubéran, entre 10 et 19 heures, l'entrée est libre.
Oui, merci à vous.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir. Sempre caia un dolor.